Notre premier sujet ce matin, M. McSween, c'est la course à la succession de Michael Sabia, à la Caisse de dépôt et de placement. Et là, on apprend dans la presse que le comité de sélection recommande Makital, celui qui est actuellement à la tête des opérations pour le REM.
Oui, et une division plus, un homme qui vient plus d'un passé, tu veux dire polytechnique, donc moins financier. Évidemment, après ça, tu as toutes tes études en finance, mais... C'est intéressant parce que Makital est un homme de peu de mots. Pour les gens qui ont vu en conférence de presse avec les journalistes et Michael Sabia, c'est un homme plus réservé. Ce n'est pas un gars que tu dirais, mon Dieu, voici un leader charismatique. Mais quand c'est rendu ton tour, puis que ça fait 16 ans que t'es à la caisse. Puis moi, je te parlais beaucoup de Charlemont en disant, ben là, ils l'ont amené, il y a beaucoup de background. Mais en même temps, là, il y a un jeu politique là-dedans. Si tu nommes quelqu'un de l'externe qui est arrivé après, puis que ton bon soldat que s'est rendu à son tour, entre guillemets, tu le laisses passer, tu risques de le perdre, donc ça commence à faire beaucoup de mouvements. Tu peux aussi dire à Charlemont, ben, tu te positionnes pour être le prochain, et c'est ce qui est sous-entendu dans la presse. Et on parle aussi d'André Bourbonnais, qui est un autre gars qui est des États-Unis, on peut comprendre qu'il est le favori de Charles Sirois, qui est un ami de François Legault. Donc tu vois le jeu politique derrière, qui est très intéressant, du Québec-ing des relations. Puis la caisse, le président, le PDG, doit avoir une sensibilité politique, une sensibilité avec la rémunération, parce que les gestes sont scrutés par la population et les journalistes, et on a un faux biais au Québec de penser que la caisse doit servir à sauver nos entreprises. Donc, on voulait que ça intervienne dans Bombardier, dans Rona, dans Saint-Hubert, dans Vidéotron à l'époque, qui est quand même un des pires placements de la caisse parce que, oui, on a récupéré nos billes, mais on a perdu du rendement pendant des années. Alors, le président, quand il vient de l'interne, il a cet avantage-là. Et l'autre avantage qu'on peut parler, qui est au niveau de la diversité, si tu mets Makital, qui est né au Mali, à la tête de la caisse, t'envoies un message clair aussi qu'au Québec, il y a cette possibilité d'être, par exemple, un immigrant qui arrive pendant sa jeunesse et qui réussit à se tailler une place et qui est pas victime de discrimination en fin de parcours parce que il était pas dans la majorité représentative. Tu comprends? La diversité est importante au niveau de nos institutions et ce serait un bon geste aussi parce que la personne a la compétence. Maintenant, certains diront, sa spécialité, c'est plus la gestion des infras que des portefeuilles. Ben, écoute, quand t'es PDG, il y a des gens de toi aussi qui sont là pour t'orienter puis t'aider à prendre des décisions. Et quand t'as de l'expérience en haute direction, tu peux y arriver aussi. Alors,
mais ça demeure en bout de parcours, là, c'est un choix politique. C'est-à-dire que c'est François Legault qui va décider, là, au-delà de ce que le comité recommande, qui veut voir à la tête de la caisse.
Oui, sauf que si François Legault va à l'opposition de ce que le comité recommande, il va quand même avoir de l'air d'utiliser son droit de veto pour prendre une décision plutôt... disons, pas personnel, mais avec des orientations. Alors, si un comité indépendant te dit « Nous te recommandons Makital », ben c'est quand même spécial si tu changes d'idée. Il faut que tu aies une maudite bonne raison de le faire. Et comme premier ministre, si tu couvres ton derrière, t'es mieux de juste comme continuer la décision.
Maintenant, nos logements à Montréal sont de plus en plus rares et de plus en plus chers.
Oui. On a le parc qu'on mérite, Paul. Pis...
C'est-à-dire?
Ben, je sais pas si t'as remarqué un peu à Montréal. Bon, t'as beaucoup d'immeubles des années 1920, 1950, 1960. Puis après ça, il y a comme un creux, tu sais. Puis il y a des condos qui sont bâtis, bon. Mais parce qu'on a mis des règles du jeu pendant des décennies comme ça, puis on s'est pas réveillé. Première des choses, les plaques sont rendues vraiment chères à cause de la baisse des taux d'intérêt. Et donc, les gens paient 200 000 la porte pour des immeubles à revenus de 6 à 10, 15, 20 logements. Peu importe l'état. Donc, les immeubles sont extrêmement chers. Donc, difficile d'avoir un logement abordable quand le prix est élevé. Mais, l'autre problème qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas encouragé les gens à rénover. Regarde, prends par exemple un boomer qui a acheté un immeuble en 1980 qui avait 20 ans. Ben, il peut l'avoir juste un peu entretenu. Les immeubles, c'est des carrés de bois. Il n'y a pas beaucoup de complexité au niveau de la technologie à l'époque puis de l'isolation. Donc, tu pouvais laisser traîner des immeubles. Là, on arrive en 2020. Ben, les immeubles ont 70 ans, 100 ans, problème de fondation, problème d'infiltration d'air, problème d'infiltration d'eau, de moisissure, faut refaire le système électrique. Les locataires aujourd'hui ont besoin de beaucoup plus de besoins qu'avant. Donc, il y a beaucoup d'argent à mettre, mais la régie du logement te permet pas d'augmenter les loyers aussi de façon proportionnelle au coût que ça te coûte. Donc, t'es comme pas encouragé à investir. Après ça, il y a le phénomène Airbnb qui dit, hey, arrête de te faire écœurer avec la régie du logement puis des locataires. tu peux louer pour une semaine le prix de pour un mois normalement ton loyer sans avoir le trouble, l'obligation légale de t'occuper de quelqu'un à temps plein.
Mais ce que tu dis là est vrai. Je comprends là, sur le plan, en fait, dans l'objectif d'être propriétaire. Mais quand tu es un locataire, quand tu es une famille, mettons, de quatre, puis tu cherches un logement à Montréal, là, qui a un peu d'allure, là, tu sais, puis qui est un peu en termes d'espace.
Tu n'y arrives pas.
Ben, tu peux pas trouver. Moi, quand j'entends les gens pratiquement dénoncer ceux qui vont vers la deuxième couronne puis qui s'éloignent, je comprends l'auto puis tout ça, là, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont pas capables de trouver quelque chose qui a de l'allure à un prix qui a du sens.
Mais le problème, c'est quand tu dis deuxième couronne, c'est parce que la première couronne n'est pas assez dense, donc il n'y a pas assez d'offres.
Ben,
et donc,
tu
es obligé d'aller plus loin. Et ce qui est drôle, Paul, c'est... Tu sais, ton locataire, il regarde le prix du loyer, mettons, 1200 par mois, puis il dit, c'est épouvantable. Là, le propriétaire, s'il s'assoit avec, puis il dit, écoute, moi, j'ai 250$ de taxes dans ton immeuble, dans ton loyer, j'ai 800$ de paiement hypothécaire, puis j'ai 100$ de tous les autres frais. Moi,
non,
je fais même pas d'argent.
Je blâme pas le propriétaire, là. Je comprends qu'il est dans la spirale inflationniste. Je comprends aussi que les taxes à Montréal, on y va par là. Mais voici ce que ça me coûte, puis voici ce que moi, j'ai comme budget.
Exact. Mais l'autre affaire aussi, c'est de te dire, comme locataire, c'est tellement cher. Est-ce que c'est les taxes foncières des autres résidents qui doivent financer ton logement social après, ou on devrait financer directement les locataires par une allocation logement dans le marché sans avoir à entretenir les immeubles dans des conditions gouvernementales? C'est ça la question.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
7h21.